France Musique. France Musique, les grands entretiens, François Bonnet.
François Bell, je suis né en 1932, loin d'ici, à Tamatave. En 1966, Pierre Schaeffer m'a confié la responsabilité du groupe de recherche musicale, le GRM, et aussi j'ai tenté d'être compositeur.
François Bell, bonjour.
Bonjour François.
Vous êtes compositeur et votre nom est indissociable de l'histoire d'une musique, celle issue de la tradition concrète et celle d'une institution, le groupe de recherche musicale. Nous reviendrons à l'un et l'autre de ces sujets, mais pour démarrer cette série, et comme c'est souvent le cas, j'aimerais me pencher sur les origines de votre parcours et sur votre enfance, qui n'a rien d'une enfance banale. Alors pour commencer, où êtes-vous né, François Bell ?
Ouh, je suis né bien loin d'ici, oui. 20 000 kilomètres peut-être. C'était à Tamatave, ça s'appelait comme ça à cette époque-là, dans une île qui s'appelle Madagascar, parce que mon père était fonctionnaire, après bien des péripéties dans sa vie, qu'il a jeté là, si loin.
Et donc c'est une enfance solitaire que vous menez ?
Oui, solitaire rétrospectivement. Parce que je n'ai jamais souffert de cet état de fait qui m'a été rapporté plutôt que je ne l'ai vécu consciemment. Et il s'est trouvé que la vie que j'ai vécue n'a pas beaucoup de relation avec la vie telle qu'on peut l'observer. C'est-à-dire, si on se place du point de vue de l'observateur, alors on voit un petit blanc né complètement, de façon absolument aberrante, aux antipodes, dans un environnement hostile, en fait d'une hostilité sans pareil. Une pauvre maman enceinte dans un endroit où il n'y avait que deux ou trois visages blancs, aucun hôpital, un médecin militaire qui n'avait jamais pratiqué d'accouchement et qui était donc une espèce de passager clandestin dans la médecine. Et ça s'est très mal passé, évidemment. Donc, c'était entre la vie et la mort pendant un certain nombre de semaines. Et évidemment, sans doute, heureusement, il devait y avoir là quelques braves femmes qui étaient, elles, habituées à la vie élémentaire et qui nous ont sauvé la vie.
Est-ce que vous diriez que cette enfance donc solitaire et dans un territoire hostile a développé une prédisposition au niveau de l'écoute, en tout cas, sur votre expérience primale d'enfant ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'on est complètement fabriqué par ces premières années, par le combat de la vie, comment se maintenir en vie, par le type d'attention, de focalisation, de l'intérêt. Et par la force des choses, bien que je ne me rappelle d'aucune leçon de précaution, il n'y avait aucune peur, aucune espèce de directive, de crainte ou de choses comme ça. Enfin, il ne m'en reste aucune trace en tout cas. Mais tout ce que je sais, c'est que je faisais très attention à tout. jusqu'à y compris ne pas marcher trop vite, parce que j'avais observé que si je tombais, que je me raflais le genou, la plaie durerait 6 mois à se guérir, et que le moindre petit bruit pouvait être dangereux, que ça pouvait être un serpent, que ça pouvait être une araignée, que plus les bruits étaient faibles, plus il fallait en prendre compte. Voilà, ça m'est resté. J'étais, effectivement, c'était une école de l'attention très très soutenue.
C'était aussi une enfance sans cesse déplacée.
Oui, bien sûr. En plus, nous étions très chahutés. Tous les 3 ans, mon père devait quitter l'endroit pour se rendre dans un autre, très loin. Les voyages, c'était une expédition incroyable. Mon père avait toute une quantité de caisses et de malles, parce que quand on arrivait quelque part, il fallait repartir à zéro. Il fallait refaire la maison pratiquement. Il fallait refaire les portes, les fenêtres. Le précédent qui avait quitté, avant que le suivant ne vienne, les indigènes avaient tout pris. Donc, il ne restait plus que la carcasse de la maison, pratiquement. Donc, il fallait se réinstaller à zéro. Donc, mon père, qui était menuisier, avait toute une série d'outils, de caisses d'outils, de clous, etc. Bon, j'ai encore un grand attachement à des humbles choses. Par exemple, quand je vois un clou par terre, je le ramasse. Ça m'est resté, même à mon âge avancé. Un clou était une denrée extrêmement précieuse. Donc, j'ai fait attention à toutes ces choses-là. Et c'est une vie de nomade. Enfin, c'était une vie élémentaire, au degré zéro de la vie, à vrai dire. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai été très excité. Et je le suis encore, d'ailleurs, quand j'y repense.
Que vous évoquiez votre père menuisier à l'origine, qui a ensuite eu une carrière de fonctionnaire, puis de haut fonctionnaire. Et donc, très tôt, vous avez appris à manipuler, à avoir une approche, j'anticiperai en disant concrète,
manuel.
Des choses.
Manuel, absolument. Oui, c'était la survie. Il n'y avait rien. Peut-être fabriquer chez moi une sorte de capacité d'observation, de résistance aussi, et puis de débrouillardise. C'était littéralement l'école des Boy Scouts, mais en vraie grandeur, avec aucun observateur et aucun compliment. C'est-à-dire que la sanction, c'était la réussite de l'objet qu'on fabrique, sans s'être blessé, sans s'être coupé, et puis que l'objet soit utile et améliore la vie, l'existence, etc. Voilà, donc j'étais un bricoleur, oui, j'étais un singe bricoleur, oui.
Et donc ça, c'est un petit peu le tableau du petit François Bell dans la nature et dans un monde sauvage.
À l'état naissant.
Quelle est votre première rencontre avec la culture, en tout cas la culture musicale, et quel est votre premier souvenir musical, on va dire, au sens...
Avant la musique. La musique, finalement, c'était l'Europe, quand on est revenu en Europe. Mais de toutes ces époques et jusqu'à ma 13e année, déjà jusqu'à ma 10e année, c'était la brousse. Aucun interlocuteur de mon âge. Et puis, vers la fin de cette période, la vie plus civilisée à Tananarive, la capitale, où j'ai pu rentrer au lycée directement, c'est-à-dire sans être passé par aucun moment d'école primaire, en ayant appris à lire, à écrire et à compter avec mon père et ma mère. Et où, dans mon temps libre, lisant les livres qu'avait utilisé mon père pour son concours administratif, j'avais, par l'effet de la lecture en compréhension, j'avais acquis à peu près les notions jusqu'au baccalauréat. Je n'ai plus rien fait quand je suis rentré, à partir du jour où je suis rentré au lycée. Je savais le programme jusqu'au bac, pratiquement, sur les matières importantes comme le calcul, la géométrie plane, même la géométrie dans l'espace. Je savais ça parce que je l'avais lu comme on lirait un roman.
Et c'est à Tananarive que vous découvrez pour la première fois de façon suivie la radio.
Quand nous sommes arrivés à Tananarive, là on a trouvé un équipement électrique. Mon père a acheté un poste de radio. C'était encore la guerre. Et c'était la démarcation, c'est-à-dire mon père avait opté pour De Gaulle parce que c'était un ancien combattant de la guerre 14, qu'il avait survécu, et était très mal vu par le reste de l'administration, qui était forcément vichiste. Pour avoir des informations, il fallait un très grand poste, qui pesait très lourd, et puis une immense antenne de 20 mètres, 30 mètres, je sais pas, que nous avions construit ensemble avec mon père, je m'en rappelle très bien, de façon à pouvoir capter Radio Brazzaville qui donnait des informations sur l'état de la guerre. Voilà l'ambiance de cette époque. Et avec entre les informations proprement dites, il y avait des programmes musicaux. Et j'ai commencé à entendre de la musique. Probablement que ça a été aussi probablement la première influence. Ma formation auditive n'a pas été avec de la musique réelle, mais avec de la musique par un haut-parleur, de la musique transportée par l'électricité. Donc cette distance méconstitutive par rapport à la manière dont j'ai fabriqué mon écoute.
La guerre se termine et vous partez pour la métropole.
Oui, je suis passé à pieds joints de la vie sauvage et de l'espace de la nature au pensionnat. Pensionnat pendant la post-guerre, où il y avait encore des tickets de pain, de viande, que je perdais parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc c'était dramatique et très rigoureux. Un hiver épouvantablement froid, moi qui n'avais connu que le soleil des tropiques. Bon, c'était le traumatisme absolument dans tous les sens. Normalement, j'aurais dû en rester idiot. Peut-être d'ailleurs que c'est le cas. Enfin, ça m'a certainement nécrosé une partie de mes circuits neuronaux. Et ça m'a rejeté dans un comportement psychotique très étrange. Parce que je me souviens de cette période de lycée où mes camarades était très taquin, était violent, donc il fallait que je me referme comme une boule. Et à l'époque, il y avait une petite invention qui circulait, qui consistait à se fabriquer des postes à galène, et qui permettait de capter la radio, et puis d'avoir, avec des écouteurs, une très bonne audition, parce que l'écoute par écouteur était une écoute dans la tête. Et c'est comme ça que je me réfugiais, complètement traumatisé par la vie et toutes mes aventures et mes aventures, je me réfugiais. Mon espérance, quand je me réveillais le matin, c'est de me dire, heureusement, ce soir, je vais pouvoir écouter. Voilà, ça a été ma bouée de sauvetage. Et c'est comme ça que j'ai entendu pour la première fois ce qu'il est convenu d'appeler de la musique. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait.
Notamment dans les entretiens de Colette, qui avait un indicatif très spécial.
Voilà, alors c'était une émission de radio qui, comme c'est encore le cas, préludé par un indicatif. Mais là, à cette époque-là, c'était, je ne me rappelle plus, Robert Mallet, je crois, qui s'entretenait avec une femme incroyable, qui avait une prononciation incompréhensible. Il s'agissait de Colette, et qui racontait sa vie. Mais avant que ce qu'elle disait m'intéressait pas, d'abord je comprenais rien à ce qu'elle disait, mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait un très grand prélude musical et j'attendais parce que l'indicatif revenait à la fin. Donc j'écoutais impatiemment l'arrivée de la fin. Et chaque semaine, ce rendez-vous me remplissait de joie parce que ce qui se passait, c'est que ma tête, les écouteurs étant directement branchés sur le centre de mon crâne, un ruissellement fantastique qui m'envahissait complètement et qui me dressait les cheveux et tous les poils du dos sur c'était miraculeux. Finalement, j'avais l'impression de voir s'ouvrir les portes du paradis. Et je pense, j'ai encore très nettement le souvenir de cette magie totale qui m'a rendu confiant tout le reste de mon existence parce que la magie de l'écoute, je sais ce que c'est.
Musique, les grands entretiens de François Bell.
Alors dans cette période de lycée, il y a aussi une autre grande découverte pour vous, c'est le cinéma.
Oui, alors cette écoute m'a déployé. Je me suis aperçu qu'il y avait deux mondes. Le monde très ennuyeux de la société et de l'organisation des gens qui étaient tracassiers, qui me faisaient peur, où j'étais frêle et pas de grande constitution. Donc j'étais toujours le perdant, j'étais battu, j'étais inapte. Bon. Et à côté de ça, il y avait un monde qualitatif. Il y avait des refuges dans l'écoute, des refuges aussi dans la magie d'aller... nous avions le jeudi de libre, le tramway pouvait nous mener au centre et où il y avait des maisons qu'on appelait cinéma, bon, très bien. Puis à ce moment-là, la pratique c'était les programmes permanents, c'est-à-dire si on arrivait à 2h jusqu'à 6h, on pouvait revoir 4 fois le film. Ou 3 fois, ou 2 fois, enfin bref. Donc j'ai dévoré, j'ai été envahi comme ça, par le son, par l'image.
Dans cette expérience de cinéma, il y a une anecdote assez savoureuse, je trouve, où vous faites la rencontre fortuite d'une musique célèbre de Debussy.
Alors ça, c'est mon ouverture à la vraie musique, progressivement. Hein. J'avais déjà été, je l'ai dit, impressionné par la liquidité indicible, indescriptible, et qui m'avait fasciné. Et un jour, il se trouve qu'un film, sans intérêt d'ailleurs, mais bien sonorisé, me procure un plaisir à peu près semblable. Et il y avait un enlèvement, ça devait être Errol Flynn ou quelque chose comme ça, qui emportait sa belle sur le bateau de pirates, etc. Et il y avait, ça se passait la nuit, il y avait la lune et l'eau, etc. Et venait quelque chose dont je ne savais pas qualifier la nature, un bain de musique. Et une prégnance extraordinaire. J'ai revu le film un certain nombre de fois. Et ça m'amène à me dire, mais voyons, qu'est-ce que c'est que ce que j'ai entendu? Et il y avait un marchand de musique dans la rue, pas loin, dans le centre de Bordeaux. Un marchand de musique à qui je dois beaucoup. Et qui était une personne vraiment qualifiée. Et je vais chez ce marchand, je lui dis, je lui explique. Alors, il a dû être étonné, ce bambin qui est là, qui vient et qui chantonne quelque chose. Il dit, je voudrais la musique qui chante cet air-là. Et je lui chante le profil mélodique. Et bon. Mais il me refait répéter. Il tapote ça au piano. Et je dis oui, c'est ça, oui, c'est bien ça. Oui, est-ce que je pourrais? Il me dit écoute, je crois avoir votre affaire, revenez dans certain temps, je vais commander cette musique. Et il me rappelle j'allais toutes les semaines et un jour j'ai dans les doigts la partition du Clair de lune de Debussy pour piano. Je vais tout de suite dans la salle de piano du lycée où j'étais pensionnaire. Et je commence à décortiquer, on m'explique où est le Do, comment est le solfège, que signifient ces petits points sur les lignes, où ça se trouve sur le clavier, je crois comprendre à peu près, et je m'évertue de reproduire l'événement sensoriel, parce que je savais même pas, et tant bien que mal, j'apprends, en jouant avec mes 10 doigts et sans doute le bout de mon nez. Du coup, je suis collé à mon bac, parce que je ne fais que ça. Le proviseur me dénonce, me dit « Mais oui, si Belle n'était pas tout le temps fourrée dans la salle de piano aussi, ça ne serait pas arrivé. » Bon, alors mon père était très extrêmement en colère, et me retire de ce lycée, et m'envoie dans un collège en disant « Là, un peu plus près, un petit collège, peut-être là où on habitait, à Libourne, là, au moins, tu seras obligé de travailler. » Effectivement, j'ai très bien travaillé. J'ai eu mon bac avec mention et tout cette année-là. Mais pas de chance pour lui et grande chance pour moi. Je n'ai jamais fait autant de musique parce qu'il y avait là un pion d'études qui était un fantastique pianiste et qui avait besoin d'un tourneur de page. Et avec lui, pendant un an, du matin au soir et du soir au matin, dès qu'il avait une minute, il se réfugiait dans le piano et il m'a défilé tout Beethoven, tout Chopin, toute la littérature. Et moi, j'ai appris le solfège. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'était la notation et la musique écrite. Voilà, c'est mes débuts chaotiques.
Le baccalauréat en poche, vous étudiez 2 ans à Bordeaux.
Oui. Alors, le baccalauréat en poche, je me fâche, sans me fâcher, je rompe avec ma famille. Mes parents voulaient me destiner à une carrière. Médecin, colonial, quelque chose comme ça. Moi, ça ne me disait rien. Il n'y avait qu'une chose, pour moi, c'était la musique. La musique, j'avais fait... non pas contact, connaissance, mais c'est-à-dire que ça m'avait ressuscité. J'étais un mort vivant, ressuscité par l'écoute. Et c'était donc la seule activité que je pouvais envisager. Donc, par acquaintance des amis, je me procure une place à cité universitaire, un petit boulot, je mettais des journaux dans les boîtes. Donc, je deviens autonome, indépendant financièrement, et j'annonce ça à mes parents. Et grande surprise, ils le prennent pas trop mal, enfin ils le prennent très mal bien sûr, mais enfin ils se disent qu'après tout c'est courageux et que quand j'en aurais bavé je serais plus raisonnable et qu'on reparlerait de tout ça plus tard. Mais en tout cas mon père est reparti refaire un séjour aux colonies et moi je prends évidemment tout de suite la place la meilleure qui consistait à s'occuper de la discothèque de la cité. C'était l'arrivée du micro-sillon et tout d'un coup se déployer un univers fantastique de richesse dans l'écoute. Autrement dit, je continue dans cette première tentative d'expérience qui était d'écouter de la musique à travers un parleur, c'est-à-dire en court-circuitant l'acte de production de la musique, c'est-à-dire la musique en elle-même, le contenu musical, la langue, l'espace, l'univers, ce que raconte la musique, voilà, et ce qui s'entend quand on écoute. C'est-à-dire, finalement, on est soi-même, l'interprète, l'agent, la création de la musique se fait dans l'acte d'écoute lui-même. Je ne savais pas que j'étais sur le chemin de la recherche musicale.
Et nous poursuivrons ce chemin demain. Merci François Belle.
Merci.
C'est sur cet extrait de Brouillard, une œuvre de 1912 que l'on doit à Claude Debussy avec au piano Arturo Benedetti Michelangeli que cette émission s'achève. Prise de son Catherine Dérété, mixage Claire Levasseur, attachée d'émission Flora Sternadel, réalisation Lionel Quentin. Rendez-vous demain pour la suite de ces grands entretiens avec François Bell.
À réécouter sur francemusique.fr.